on s'est adapté un petit peu à l'évolution des choses et on a, en prenant le temps, ben, il ne vous a pas échappé qu'on a changé de président de la République et qu'on a eu d'un certain côté la chance qu'il décide de choisir notre secteur géographique pour en faire sa roche de solutré à lui, c'est-à-dire qu'il a promis qu'il viendrait chaque année au plateau d'Aiglières, qui est sur notre département, et ce qui fait que finalement la grande histoire, si on peut estimer que c'est grand, est venue un peu percuter l'histoire du film, du portrait. Donc tout ça c'est enchevêtré un petit peu pour faire le film que vous allez voir ce soir. Et juste pour vous, je tiens quand même à préciser que c'est un film qui n'a bénéficié d'aucune aide. On n'a même pas d'aide pour la distribution de la part du Centre National de Cinématographie. Et en fait, on a eu un seul partenaire qui a assumé son rôle de partenaire du début à la fin, c'est la région Rhône-Alpes. Et un autre partenaire qui est venu nous aider à la distribution, c'est le réseau ISF. Ça n'a rien à voir avec l'ISF que vous connaissez. C'est les salles indépendantes dont Utopia fait partie et nous accueille. Indépendant, solidaire et fédéré pour ceux qui n'ont pas entendu. C'est beau. Hein, voilà. Bon, je vous en dis pas beaucoup plus. De toute façon, si on est là, c'est aussi pour répondre aux questions et aux interrogations, aux critiques et tout ce qui vous passera par la tête. Bonne projection et à tout à l'heure. Walter, tu...
Je sais pas, tu crois qu'il y a rien à... Je vais retarder la sortie du film. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que ce film n'a pas été fait pour être anti quelque chose ou anti quelqu'un. Hein. À l'origine, et il l'est resté d'ailleurs... son objectif, c'était parler du devoir de mémoire et de l'engagement citoyen dans la résistance. Parce que s'engager dans la résistance, c'était un engagement citoyen et républicain. Bon, comme le tournage a duré 2 ans, on a rencontré des événements politiques. Et un citoyen qui ne parle pas d'événements, qui ne réagit pas, c'est pas un citoyen. Or, il y a des scènes qui peuvent éventuellement décevoir. Je vous le dis parce que ça a été fait en Haute-Savoie. Il y a eu des déceptions, il y a eu des critiques. Il y a même eu des critiques... c'est une clique, hein, mais enfin, ça fait rien. Il y a des critiques qui disent que le film sème la haine et la guerre civile. Alors si parmi vous, certains trouvent cet aspect des choses, bon, on en parlera tout à l'heure lors du débat. Voilà. Bon, en attendant, je vous souhaite bonne projection.
Excusez-moi de reprendre le micro. Juste ajouter une chose, c'est que vous verrez dans le film, on a essayé aussi de mettre en place en Haute-Savoie une passerelle un petit peu entre les résistances passées et les résistances un petit peu plus actuelles, même si chaque époque est différente. Et donc avec nous, on aura Alain Refalo qui viendra témoigner aussi et puis animer, enfin répondre aux questions et amener un petit peu des éléments de réflexion pour le débat. Et il sera là avec nous. Donc Alain Refalo, je pense qu'ici, vous le connaissez. Bon, ben, il se présentera et puis on définira. Voilà. À tout à l'heure. Bonne projection. D'abord, merci pour les applaudissements. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions ou des remarques, ou s'il faut, je pourrais peut-être digérer un petit peu tout ça.
Non, juste pour ouvrir le débat, moi j'ai trouvé ça très actuel, vraiment, vraiment actuel. C'est-à-dire qu'on voit tous les jours des combats, on parle de tout ça, les gens qui baissent les bras, et ce film montre réellement que les choses ne changent pas, qu'on est des êtres humains et qu'on peut vite tomber dans l'aveuglisme, ou je sais pas comment dire, et qu'il faut rester ouvert, et notamment quand, enfin, ce qui m'a le plus choqué dans le film, ce sont les jeunes, les discussions dans le bus. Donc voilà, et même pas le parti politique de droite et ses expressions, mais c'est surtout l'analyse qu'on peut en faire et de nos jeunes qui, mais le temps passe, et comme un jeune disait dans le bus, bien, il nous paraît loin ce temps de la Deuxième Guerre. Et en fait, c'est bien de voir Walter pour voir que c'était pas si loin que ça Et quand même, il conclut sur, on dirait, la Star Academy du vote, Sarkozy, Ségolène. Bon. Et je crois qu'on a le devoir de rester en lutte. Et voilà. Voilà ce que moi, je sors, c'est personnel, mais je trouve que c'est un film qu'il faut diffuser et pas qu'aux gens convertis, quoi.
On va essayer de s'y employer, n'est-ce pas ? C'est bien le but. Enfin, ce film a été fait pour ça quand même. Enfin, dans le sens où, à la fois montrer que c'est effectivement pas si loin que ça, et puis aussi pour mettre la pêche. Enfin, j'espère que vous. Enfin, le but c'est quand même qu'on sorte un petit peu regonflé. Effectivement, le côté un peu, attristant. Moi, ça m'attriste pas la réaction des jeunes, mais enfin, c'est vrai qu'on a l'impression que dans ce film il y a des vieux très jeunes, enfin des vieux. Excuse-moi, il y a des gens qui ont un certain âge et qui ont encore 25 ans dans leur tête, plein de projets, plein d'optimisme. Et puis, effectivement, des jeunes qui pourraient paraître comme résignés ou en tout cas qui trouvent dans le vote qu'ils auraient exprimé une attitude qui est plus sur la peur et sur la rétraction et certainement pas dans l'espoir vu le programme politique que nous propose ce candidat-là, quoi. Après, cette séquence-là, elle a beaucoup fait parler. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Et moi, j'aime beaucoup ce moment-là aussi, parce que, en fait, je pense que ça devrait questionner la classe politique dans son ensemble. Et c'est pas pour incriminer les jeunes du tout, du tout. Ils sont formidables. On a passé des moments ensemble. Ils ont réfléchi. Ils se sont questionnés. Ils ont travaillé en plus des heures scolaires sur ce concours de la résistance. Donc ils sont maintenant c'est la vraie question là-dessus, c'est de savoir pourquoi. Enfin, je leur pose la question d'ailleurs dans le bus où je leur dis pour moi ton vote est déconnecté de tes valeurs, quoi. Et pourquoi on en est là? La vraie question elle est là. C'est-à-dire que comment ça se fait que certaines valeurs qui pouvaient être attachées à un camp politique avant ne le sont plus aujourd'hui? Ça veut bien dire qu'il y a eu de la part de certains gouvernements de gauche un abandon de ces terrains-là, quoi, et de ces valeurs-là. Et puis en face, un candidat qui est devenu président, qui est quand même brillant dans sa façon de communiquer pour récupérer ces valeurs-là et de laisser supposer que ces valeurs-là sont défendues par son programme politique. Alors que évidemment que c'est l'inverse et qu'on prône l'individualisme, la réussite individuelle, etc. Et jamais la réussite collective ou l'envie de s'en sortir ensemble comme le programme du Conseil national de la résistance pouvait l'espérer et l'avait mis en place. Mais n'empêche que pour ça, il faut être un petit peu cultivé politiquement et vouloir s'intéresser à la chose politique, la chose publique, ce qui est de moins en moins le cas. Et je pense que ces jeunes-là, ils sont le reflet de ça, sans parler de... Je pense qu'ils sont aussi victimes, en tout cas très perméables à la communication télévisuelle, etc. Et donc, du coup, ils se laissent avoir par ces techniques de communication, de démagogie, de populisme. Enfin, on peut qualifier ça comme on veut. Et voilà. Ce sont des jeunes, ils ont tout le temps de se construire, d'être confrontés à d'autres réalités. Il faut rappeler que cette scène-là a été tournée un mois et demi après l'élection de Nicolas Sarkozy, que c'est le voyage du concours de la résistance de Haute-Savoie. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le paysage politique au Savoyard, ça explique pas mal aussi la réaction des jeunes. Et puis tout ça, ça va évoluer. Mais n'est-ce pas, Walter ?
Si, s'il vous plaît.
Ouais.
Oui. Moi, je trouve le film très très bien, mais je trouve qu'il... Et je comprends tout à fait vos fondements, mais je trouve qu'il manque quand même une dimension quand vous dites que quand on montre que les gens sont un peu désabusés, enfin, pas ceux qui sont à l'écran, hein, les autres, par rapport au CNR, il y a, sur le plan historique, il y a quand même le fait qu'aujourd'hui, il y a eu l'histoire du mur de Berlin. Et donc, on ne peut pas, si vous voulez, l'analyser uniquement, même si je comprends très bien votre propos et j'y adhère en partie, mais on ne peut pas avoir la même analyse vis-à-vis du positionnement politique de la population par rapport à une résistance après le mur de Berlin qu'avant. Et ça, je trouve que ça manque un peu dans le film, cet angle-là, sinon ça aurait été vraiment... Parfait, si je puis me permettre, bon, de mon humble place. Voilà.
Ouais, enfin moi, excusez-moi, il me semble que par rapport au programme du Conseil national de la résistance qui était écrit, enfin je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent dans la salle, Je vous incite à aller chercher sur Internet, on le trouve très facilement. Vous allez lire, et il est énormément basé autour de valeurs, et surtout de savoir ce que ça veut dire que vivre ensemble, et savoir ce que ça veut dire que comment construire un pays, sur quelle base construire un pays, pour vivre tous ensemble, correctement, et pas marginaliser les uns, et pas au détriment les uns des autres, quoi. Et ça, mur de Berlin, pas de mur de Berlin, pour moi, ça n'entre pas en ligne de compte, et je pense que ces valeurs-là, elles ne sont pas attachées à une période de l'histoire propre, et on peut aussi les retrouver toujours aujourd'hui. Et ça, on s'est fait attaquer là-dessus en disant que c'était l'amalgame, enfin vous avez vu là, un petit peu là, et ça a continué de cette histoire-là, parce que c'est pour eux, c'est un amalgame, enfin ceux qui nous attaquent, et moi je continue de dire que non, ces valeurs-là, elles traversent les décennies, et c'est pas attaché à 4 ans de l'histoire de France qu'on a voulu ranger dans le passé, qu'on a mis sous cloche, qu'on a dit ils étaient beaux, ils étaient forts, c'était formidable, mais c'était avant, et il ne faut pas y toucher, et puis surtout pas essayer de poser ces questions qui fâchent, quoi. Après, je pense qu'on peut construire aussi un projet de société et avoir envie de vivre ensemble sans forcément être traité de stalinien et de penser que l'Union soviétique puisse être un modèle idéal, ce qui n'est évidemment pas le propos, tout ça.
Au niveau de la résistance et des résistants, moi, j'ai le sentiment, en fait, qu'il y a eu à ce moment-là un mélange social. Que ce soit vous, ou Stéphane Hessel ou autre, l'origine sociale est très différente, etc. Est-ce que je me trompe? Parce que j'ai le sentiment un petit peu aujourd'hui que, on est de plus en plus cloisonné dans des corporatismes ou dans. Ce qui fait qu'on a un peu de mal sur certains combats, effectivement. Parce que chacun reste un peu dans son petit monde, j'allais dire.
Oui, pour moi, il y a une certaine dérive qui est apparue dans les années 50, qui s'est poursuivie. On a oublié qu'il y avait des valeurs à défendre, les valeurs républicaines. Et chacun est parti dans son... Je sais pas, en pensant qu'ils avaient des droits... qui n'étaient pas les mêmes que ceux des autres. C'est vrai que le progrès a apporté un certain nombre de choses qui ont pratiquement mis les gens dans l'obligation de se taire et de dériver sur ces valeurs par rapport aux valeurs républicaines. Ça, c'est sûr. Ça reviendra. Hein. Moi, je fais confiance. Je pense que... Les valeurs républicaines, l'esprit républicain, on le retrouvera. Mais il faudra peut-être compter quelques années avant que ça porte ses fruits. Je ne peux pas vous en dire plus. Hein. Moi, disons que personnellement, je continue. Quand je suis rentré dans la résistance, j'étais plein de haine envers les Allemands, envers les nazis, pardon, et les collaborateurs. Mais j'avais pas une conscience politique ou patriotique bien grande. Le hasard a voulu que je revienne vivant des camps. Et là, je peux vous dire que j'avais mûri et que depuis, quand je suis revenu des camps, j'étais un citoyen conscient. Et je pense que j'ai cette citoyenneté consciente. Je crois que je la pratique depuis mon retour, c'est-à-dire depuis 65 ans. J'apporte ma pierre à ce combat pour les valeurs républicaine, pour les institutions républicaines, pour les valeurs morales. Voilà. Alors, je ne suis pas tout seul. Il y en a d'autres qui sont comme moi. Je pense que d'autres viendront nous rejoindre. C'est tout.
Moi, si vous permettez, j'ai le micro. À moins que vous ne vouliez pas parler. Alors, voilà, la première des choses que je ferai, c'est me féliciter qu'il existe ce film, parce que je pense que c'est une idée heureuse et, comment dirais-je, très courageuse aussi, d'associer le passé de la résistance et le futur, le présent et le futur aussi de la résistance dont nous avons besoin. Si nous ne résistons pas aujourd'hui, il en est des valeurs, il en est des hommes et des femmes avec des destins que nous aurons certainement, que nous déplorons déjà, et que nous aurons davantage à déplorer. Il y a Georges Segui qui a écrit, l'ancien secrétaire général de la CGT, qui a écrit d'ailleurs sur ce thème-là, hein, en tant que déporté, la résistance dans les camps de concentration, mais la résistance aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous ne résistons pas, vous en avez déjà parlé, la sécurité sociale, ce sera les assurances pour ceux qui peuvent se la payer. Aujourd'hui, si nous ne résistons pas, et c'est en train de le devenir, ce sont les mutuelles qui disparaissent. Et c'est les assurances pour ceux qui pourront se le payer. Ça sera la santé à plusieurs vitesses. Donc, rien que par ces petits exemples-là, résister aujourd'hui est un impératif, et c'est le mot le plus moderne, et c'est le mot le plus d'actualité, qu'il faut que l'on s'empare. Il ne faut pas simplement la coller à quelque chose de grave, oui, hein, ce que ont vécu les gens que nous venons de voir, Walter, qui est là aujourd'hui. Mais résister aujourd'hui, c'est la plus noble, je dirais, des causes, et que on peut rassembler autour de ce thème-là beaucoup de monde que on n'arrive pas à faire dans la période actuelle, et qui laisse les mains libres au pouvoir, aux possédants. Ils peuvent tout se permettre aujourd'hui, car en fait, la résistance n'est pas assez forte. Et je dirais sur un autre fait qui me fait mal, c'est que quand on parle de valeurs, quand on parle d'égalité, quand on parle de progrès, il y a toujours quelqu'un qui nous ramène au stalinisme, qui nous ramène à l'Est, qui nous ramène ailleurs. Et de ce fait, il n'y aurait plus rien à faire. Parce qu'à côté de ça, c'est pas la peine de reproduire les mêmes choses. Alors, pour moi, c'est quelque chose de très conséquent. Moi, je souhaite que d'autres reprennent la relève, parce que des films sur ces valeurs, des films sur cette histoire profonde humaine, je crois que nous en manquons. Et quand nous disons que les jeunes ont des difficultés à prendre conscience, c'est que la culture que nous développons n'est pas suffisamment forte dans ce sens-là, et par contre nous leur distribuons à longueur d'antenne des émissions qui les évadent bien ailleurs que de leur propre réalité, leurs propres besoins, leur propre avenir. Voilà, en quelques mots, et je me permettrai, puisque je suis à Colomiers, de souhaiter la bienvenue à Walter et à Bernadette que je connais plus particulièrement. Voilà.
Donc Alain Refalo, donc de Colomiers, je veux dire un mot. Lui aussi, tu connais Bernadette?
D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette soirée de m'avoir convié de participer à ce débat. J'ai rencontré Walter au mois de mai 2009 sur le plateau des Glières, à l'invitation de l'association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui, qui organise donc chaque année ce rassemblement depuis 2-3 ans maintenant, pour faire vivre effectivement, pas seulement commémorer, mais faire vivre les valeurs qui ont été portées par le Conseil national de la Résistance. Et j'ai été invité par donc le président Didier Magnin dès le mois de janvier de cette année, suite à cette lettre dont vous avez entendu parler, que j'ai écrite à mon inspecteur de l'éducation nationale, lettre que j'ai rendue publique, qui s'intitulait « En conscience, je refuse d'obéir ». Et donc dans cette lettre, je ne vais pas vous, rassurez-vous, vous retracer toute l'histoire de ce mouvement. J'expliquais, et c'est en ce sens-là que je crois que c'est d'actualité avec ce que nous avons entendu et vu dans le film, et ce que nous disons en ce moment, c'est qu'il ne m'était pas possible, en tant qu'enseignant du primaire, d'être complice de réformes qui visent à déconstruire le système public d'éducation, qui vise à transformer l'école de la République à un système de compétition. Et le mot compétition, on l'a entendu dans le film, on l'a entendu dans le débat ce soir. Je crois que c'est ça qui est la marque des dernières réformes imposées par l'ancien ministre Xavier Darcos et continuées aujourd'hui par Luc Châtel. C'est qu'on transforme l'école publique à un système organisé de compétition, de mise en concurrence des établissements scolaires. Et je crois que ça dénature totalement l'esprit de l'école publique est un esprit qui doit être de solidarité, de coopération, d'entraide, et non pas de préparation à une société où règne la loi du plus fort. Et donc, ce sont ces raisons-là que j'ai expliquées dans ma lettre qui m'ont amené à entrer en désobéissance vis-à-vis des nouveaux programmes, vis-à-vis des évaluations nationales, vis-à-vis de tout ce qui était organisé pour alimenter ce système de la compétition. À la suite de cette lettre, des centaines puis des milliers d'enseignants du primaire partout en France sont entrés eux aussi en désobéissance, en affichant leur désobéissance. Parce que des enseignants qui désobéissent, qui n'appliquent pas les consignes, la réglementation, ça a toujours existé. La différence, c'est que là, nous avons décidé de le faire savoir et de le faire savoir directement à notre hiérarchie et donc de l'assumer jusqu'à la sanction. Et effectivement, de ce côté-là, nous avons été servis. Sachant quand même que sur les 3000 enseignants déclarés en désobéissance, et il y en a bien plus, mais 3000 enseignants qui ont écrit une lettre, soit personnelle, soit collective, de désobéissance, une centaine seulement, si je puis m'exprimer ainsi, ont été sanctionnés par des retraits de salaire, essentiellement, et quelques-uns dont je suis sanctionnés sur le plan disciplinaire. Donc 23 jours de retrait de salaire, refus de promotion, abaissement d'échelon. Bon, je crois que la coupe est pleine maintenant et que malgré cela, nous avons continué ce combat, nous avons continué cette résistance, nous avons continué à l'afficher, ce qui rend notre administration finalement complètement démunie et désarçonnée, car aujourd'hui, ils se rendent compte que finalement, ce mouvement existe, ce mouvement continue. Ils ne peuvent plus l'ignorer. Luc Chatel, le ministre, au début de l'année scolaire, il n'a pas fait un interview sans qu'on lui pose une question sur cette affaire-là. Et on sent bien à travers tous les rapports des inspecteurs généraux, à travers les directives, que c'est véritablement ça qui les importune, c'est véritablement ça qui les gêne aujourd'hui, que des enseignants désobéissent, mais surtout qu'ils l'affichent. Et donc ce mouvement, ben, il va continuer, il se poursuit aujourd'hui, même si on peut considérer que depuis la rentrée, il ne s'est pas passé grand-chose. Je crois que nous avons l'envie, le désir de porter ces valeurs qui ont été portées par d'autres que nous dans d'autres circonstances. Alors je dis bien systématiquement parce que le reproche nous a été fait, nous avons parlé de résistance pédagogique et là aussi on nous a reproché d'avoir utilisé le mot de résistance, que comparaison évidemment n'est pas raison et que en aucun cas il ne s'agit de faire des amalgames qui n'ont pas lieu d'être. Notre résistance, sans être forcément en contradiction avec ce que tu dis, ne saurait évidemment, compte tenu des risques que nous prenons, ne saurait être comparée, assimilée à d'autres résistances dont nous avons parlé ici dans le film. Mais je crois que le terme résistance a un sens. Beaucoup de gens ici que je connais, beaucoup de personnes pourraient être à cette place pour témoigner et incarner de cet esprit de résistance en termes de solidarité avec les sans-papiers, en termes de lutte contre ces projets gigantesques de centres commerciaux qui vont dénaturer notre cadre de vie, qui vont inciter encore plus les jeunes à la consommation, qui vont introduire ce désir d'avoir toujours plus au détriment des autres. Et on rejoint encore une fois cette société où règne la loi du plus fort finalement, et c'est ça le modèle de nos élites aujourd'hui. Et si l'école n'est pas au premier plan pour éduquer les enfants, éduquer les jeunes à découvrir les valeurs de la coopération et de la solidarité, qui le fera? Qui le fera si ce n'est pas l'école qui le fait en priorité? Et c'est pour cela aujourd'hui que nous sommes sanctionnés, c'est pour cela aujourd'hui que nous sommes réprimés, parce que nous refusons d'entrer dans cette logique, d'instaurer donc un esprit de compétition entre les élèves et entre les établissements scolaires.
Merci.
Moi, je voulais revenir sur ce qui a été dit par les gens à l'instance, sur les réactions qu'ont eues les enfants en fait, dans le bus. Et je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas leur en vouloir tellement, mais je voulais parler un peu des médias de masse. et vous demander finalement qu'est-ce que vous pensez du grand absent, quoi, c'est-à-dire Internet. Enfin, moi, c'est ce qui fait que j'ai pris connaissance du film, et je vous remercie d'ailleurs. Parce qu'on dit qu'il y a, j'ai entendu dire qu'il n'y a pas assez de films dans ce genre. Moi, j'en ai eu vu. Mais après, je pense qu'on n'est pas toujours non plus au courant ou à même de s'informer par ces mêmes médias. Enfin, je veux dire, quand on allume la télé, ben, on tombe sur la une, forcément. C'est. Et alors que sur Internet, il faut aller s'informer et chercher les informations par soi-même. Et comme a dit une fille dans le bus, faire par l'éducation qu'on a, la différence entre ce qui est bon et ce qui est moins bon. Mais c'est un espace de liberté où il y a ce qu'il faut, je pense. Enfin, vous demandez ce que ça en pense.
Oui, non. Oui, bien sûr. Bah, on ne peut pas critiquer Internet parce qu'effectivement, ce type de film vit grâce... au bouche à oreille ou au mail à mail, on va dire, et, évidemment. Après, moi, faut pas non plus surestimer le pouvoir d'Internet par rapport à la nécessité d'aller chercher les informations et l'énergie que ça nécessite d'aller chercher les informations que tu peux trouver effectivement sur Internet. C'est incomparable avec les 15 millions de téléspectateurs que TF1 rassemble tous les soirs. Donc le chantier, il est là. Après, on peut se moquer aussi du film parce qu'on est 120 ou je sais pas combien dans la salle. Et puis effectivement, on est encore c'est très petit. Après, le grand absent du débat ce soir, c'est peut-être Internet. Les grands absents aussi de cette question-là, de poser ces questions fondamentales de vie en commun, de savoir ce que ça veut dire, c'est quand même la presse. D'une manière générale, sur ces questions-là. C'est-à-dire que jamais, si je commence à oublier son nom, ça va mal. Quand Bernard Accoyer dit que jamais on lui a posé des questions comme ça, si on lui pose plus des questions de politique fondamentale, alors qu'est-ce qu'il fout, quoi ? Quand il dit, même l'humanité ne m'a pas posé ces questions-là, non mais. Et il dit très bien, en plus, je suis un professionnel, je fais ça toute la semaine. Alors, c'est vous dire un petit peu l'état de la presse. Et c'est vrai que là, il y a vraiment, quoi. Et n'empêche que les images que vous avez vues là, vous ne les avez vues nulle part ailleurs. C'est que eux, ces médias-là, sont là pour faire un reportage pour le journal de 13h, un pour le 20h. Et ils ont un temps qui est compté, ils se contentent du service minimum, quoi. Ils ont accompagné le président dans l'avion. C'est plutôt glorifiant de partager le quotidien un petit peu avec le président qui plaisante avec vous. Et donc, en fait, ils vont faire leur travail de façon... tout est fait pour leur faciliter le travail. Après, ils vont en salle de presse, il y a des bancs de montage côte à côte. Il y a un gars qui s'appelle Atlan qui est chargé de l'image du président qui passe leur taper sur l'épaule pendant qu'ils remontent le reportage. Et ça se passe comme ça. Il y a un bon banquet. Chacun mange et boit ce qu'il veut, les bons produits du terroir en général, et chacun est reparti avec un reblochon. On est dans la zone reblochon, hein, donc un reblochon fermier avec un petit mot de Bernard Accoyer qui leur dit avec les compliments de Bernard Accoyer. Donc voilà la manière dont ils travaillent. Et moi aussi j'ai eu le reblochon, hein, donc je vais faire là, je l'ai mangé. Mais donc voilà. Mais dans tout ça pour dire que voilà la manière dont ils travaillent. Et moi, ce que j'ai fait pour filmer ça, j'ai filmé 2 minutes de plus qu'eux, j'ai fait 80 mètres à pied. Alors vous voyez, c'est pas au niveau de l'effort, c'est gérable, quoi. Hein. Il y a des métiers plus pénibles que ça, quoi. Et je me suis retrouvé à filmer cette scène complètement ahurissante où moi-même, j'en croyais pas ni mes yeux ni mes oreilles, quoi. C'était, pour vous remettre un peu dans le contexte, c'était 10 jours seulement après l'histoire du casse-toi pauvre con au salon de l'agriculture. Donc on aurait pu penser qu'ils sachent un peu se tenir, mais visiblement c'est compliqué de savoir se tenir. Déjà une minute de silence c'est long. Alors donc en fait voilà, donc c'était vraiment le truc, surréaliste. Et ça, là, ça pose une vraie question sur le contre-pouvoir qui est censé être incarné par les médias. Il n'est pas jojo, quoi. Hein. Parce que je pense que cette séquence-là est 1000 fois plus révélatrice de la considération qu'il peut avoir pour la résistance que toute la campagne de communication permanente qu'il organise sur tous les sujets. C'est-à-dire que tous les sujets le servent lui, mais en aucun cas il sert le sujet qu'il est en train de filmer. La résistance est un des moyens pour lui, pour exister, pour se redonner une image, un petit peu une stature d'homme d'État, on va dire. Je crois que il y en a qui étaient choqués, mais majoritairement ils rigolaient avec lui parce que je crois que c'est plutôt glorifiant de plaisanter avec le président de la République qui vous tape sur l'épaule et qui est là et qui se met à plaisanter, qui est visiblement pas dans le lieu, pas dans l'instant, enfin tout ce que vous voulez, et qu'il a. Moi je dis souvent qu'il faut pas s'en approcher, quoi, de gens comme ça. Et donc en fait donc du coup eux se laissent embarquer dans sa dans dans cette espèce de farandole là où il fait la roue au milieu de tout le monde et tout le monde se laisse un peu la majeure partie des gens se laisse embarquer dans cette technique de communication et de séduction. Je ne sais pas si en se voyant ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas tous des Sarkozystes, je ne sais pas comment ils ont pu, avec le recul, comment ils perçoivent les choses.
Bon, j'ai assisté au montage d'actualité télévisé et sur une seule nouvelle, avec plusieurs dizaines de mètres de pellicule, il n'en est resté qu'un tiers. La sélection a été faite, les coups de ciseaux sont donnés, et c'est ainsi que les montages se font. Et de toute façon, il est certain que pratiquement personne ne sait pas au jour le jour comment les actualités paraissent et se montent. C'est vrai que c'est instantané et rapide au quotidien. Je voulais revenir aussi sur la Haute-Savoie, où j'y ai travaillé 20 ans après la libération. Les inimitiés entre Savoyards existaient encore. Et c'était parfois féroce. Et le caractère d'ailleurs du Savoyard est dur. Ce que j'avais constaté là-bas aussi, c'est que j'ai visité un bâtiment de la Sonacotra où logeaient des immigrés, dans un état absolument déplorable, sans hygiène, avec un seul poêle rond au milieu du logement, où ils étaient tous couchés par terre, les uns à côté des autres, ils étaient 80. J'ai trouvé ça surprenant. Et on peut dire que entreprise privée et entreprise dénationalisée, j'ai toujours compris que c'était une grosse connerie de gens très intelligents. Le mépris ouvrier, je l'ai toujours connu comme ouvrier agricole ou comme salarié. Et de nos jours, quand on voit les différences entre agriculture et ville, où tout le monde se concentre dans les villes pour gagner son pain, si on peut dire, entre guillemets, la puissance de la technologie qui aggrave ce mépris anti-ouvrier ou anti-agricole. D'ailleurs, les suicides dans les campagnes aussi, on n'en fait pas état, hein, il vaut mieux pas. Dit de l'état d'agriculteur avec les produits chimiques et leurs désherbants. Voilà, alors je voulais simplement dire qu'on n'est pas encore sorti du mépris anti-ouvrier alors qu'un pays se construit à la base avec tous ses ouvriers et sans anti-solidarité.
Oui, une question, Monsieur Walter. Dans l'appel des résistants que vous avez signé le 8 mars 2004, on constate entre-temps qu'il y a eu des personnalités qui ont signé, qui sont mortes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Germain Théon et Jean-Pierre Vernon? Comment ils ont participé à ce mouvement de mise en place de vos combats? Merci.
Non, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que, ces deux personnes que vous venez de citer étaient des résistantes et résistants connus sur le plan national, alors que moi, je suis un résistant de base. J'ai milité dans le département de la Haute-Savoie. Bon, je les connaissais pour les avoir fréquenté lors d'un congrès ou des choses comme ça, mais ça s'arrêtait là, quoi. Hein? Mais je pense que leur objectif est toujours resté le même. Ils ont combattu avant la guerre, ils ont combattu pendant la guerre et ils ont combattu après la guerre. Hein? Je crois que je leur faisais confiance parce que pour moi, c'était de véritables citoyens et qui se comportaient en citoyens. Mmh. Voilà.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que cet appel que Walter en lit une partie au plateau des Glières, il y a aussi un sacré mystère là. C'est-à-dire que tous ces gens qu'on classe comme grands résistants, qu'on a glorifiés, qu'on a décorés, qu'on a mis en avant, où on s'est fait photographier à côté, etc. Tant qu'ils restent dans le passé et puis que ce sont des grands résistants, on les met en exergue. Le jour où en 2004, ils lancent un appel où justement ils disent attention, ce qu'on est en train de faire, c'est complètement l'inverse de ce que nous on apprenait pendant au moment de la rédaction du programme du Conseil national de la Résistance, il faut reprendre en main notre avenir, parler de la question des répartitions des richesses, etc., reposer la question de la presse, enfin, dont Stéphane Hessel était un des rédacteurs. Et comme par hasard, là, c'est personne n'en a entendu parler. Comment ça se fait qu'un événement aussi important passe dans un anonymat aussi important? C'est quand même quelque chose, quoi. Ça s'explique. C'est exactement pour les mêmes raisons que Bernard Accoyer estime qu'on fait un amalgame. C'est que tant qu'on parle de la résistance, et ça a été un apprentissage pendant toute la tournée d'avant-première qu'on a fait en Haute-Savoie pendant l'hiver, c'est que pour ces gens-là, la résistance se résume à un fait d'armes. Et en aucun cas, il est attaché à des valeurs, et on se pose jamais la question de savoir pourquoi telle ou telle personne est rentrée dans la résistance, qu'est-ce qu'ils ont voulu prôner, qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre en place. En gros, ça veut dire, on connaît la première partie du programme du Conseil national de la résistance qui consistait à dire comment on se libère de l'occupant et de ses collaborateurs de Vichy. Ça, c'était la première partie. Mais la deuxième partie, elle est encore plus conséquente. Je vous incite encore une fois à aller la lire. Et c'était savoir, oui, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va vivre ensemble? Quel type de société on met en place? Et cette deuxième partie, elle est complètement oubliée. Et Bernard Accoyer lui-même, quand on rentre dans l'altercation, je suis persuadé qu'il ne la connaît pas. Pourtant, ça fait des années qu'il se fait photographier, qu'il se fait voir sur le plateau des Glières. C'est lui qui a organisé la venue récurrente de Nicolas Sarkozy. Et tous les députés, sénateurs qui sont venus un peu à l'affrontement de temps en temps, toujours... jamais sur le fond du film, parce que c'est pas leur truc, ils connaissent pas. Et bien, je suis persuadé qu'ils n'avaient pas lu non plus ce programme du Conseil national de la résistance. Donc pour eux, forcément, si on compare des périodes, et en l'occurrence on compare des programmes politiques, pas à savoir qui a pris plus de risques, etc., on n'est pas sur ces questions-là, et bien c'est franchement scandaleux, c'est l'amalgame, et ça va pas du tout. Et je pense que les choses sont liées, quoi. Tant que c'est loin... Tant que c'est dans l'histoire, pour eux, la résistance, c'est une période propre de l'histoire, c'est 4 ans de l'histoire de France, point, on n'y touche pas. Et si même ça pouvait être à l'étranger, ce serait encore beaucoup mieux, quoi. Si on dit où on en est aujourd'hui, alors là, c'est problème, quoi.
Oui, juste une anecdote en lien avec ce qui vient d'être dit. Le seul moment, lors de la commission disciplinaire que j'ai connue, donc le 9 juillet à Toulouse, à l'inspection académique, où l'inspecteur d'académie est sorti de ses gonds, que dans l'ensemble, ça s'est plutôt passé de façon cordiale, hein, pendant 10 heures de commission. On nous a écoutés poliment, etc. Le seul moment où il est sorti de ses gonds, c'est lorsque Patrick Gémena, qui était présent tout à l'heure, président du comité de soutien, a lu la lettre signée Walter Bassan, Raymond Aubrac et Stéphane Hessel. Ça l'a mis dans une colère, mais... Il trouvait ça insupportable. Il dit « ça me peine beaucoup, cet amalgame ». Bon, voilà. Donc, il est parti sur ce délire-là. Donc, je crois qu'effectivement, ça, cette idée que la résistance, avec un grand R, est cataloguée à une période de l'histoire et que la résistance, avec un petit R, celle qu'on essaye d'incarner chacun ici dans différents combats, ne puisse pas y avoir de lien, je crois que ça, c'est quelque chose que le pouvoir essaye de mettre en avant. Il y a une autre chose aussi qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté de la part de ce pouvoir, et pas depuis 2 ans, depuis plusieurs années, de criminaliser tout ce qui bouge, de criminaliser les mouvements de résistance, les mouvements d'action sur le terrain social, économique, politique, de défense des droits de la personne humaine. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui est inquiétant. Inquiétant parce qu'il y a une volonté de gouverner par la peur, il y a une volonté de faire peur, même quand il s'agit de manifestations, et pour l'essentiel, les manifestations dans ce pays sont des manifestations pacifiques, quand ce sont des manifestations de lycéens, qui ne sont pas a priori des manifestations violentes, je ne dis pas qu'après il n'y ait pas des débordements, mais il y a une volonté de faire peur, de réprimer des manifestations au-delà de toute raison, et je crois que la volonté, c'est bien de dissuader, finalement, de dissuader les gens. Pas de prendre des risques, mais simplement de descendre dans la rue. Parce que descendre dans la rue aujourd'hui, dans une manifestation, quelle qu'elle soit, c'est prendre un risque, c'est un déploiement policier hors de proportion, et ça, je crois que ça devrait inquiéter quand même tous les démocrates qui sont dans cette salle d'abord, et puis bien au-delà. Voilà, donc une volonté claire du pouvoir de criminaliser tout esprit de résistance à travers notamment ces répressions totalement disproportionnées.
Et on peut ajouter, juste dans le domaine de la culture, c'est aussi inquiétant aussi, cette mainmise du pouvoir sur la culture en général, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment plus le droit de sortir du rang, quoi. Pardon, excusez-moi.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec les propos qui ont été tenus par nos amis. L'instituteur des obéisseurs, etc. Il y a d'autres des obéisseurs dans la salle qui ne sont pas instituteurs et qui travaillent dans des entreprises ou à EDF. Ou moi, je suis fonctionnaire au Conseil général. Je trouve que c'est un film de liberté. Il n'y a pas d'amalgame. C'est un film qui appelle aux gens ordinaires de se libérer de tout un tas de choses. On a dit tout à l'heure que les mots étaient importants. Je crois que les mots sont importants, mais je crois que avant les mots, il y a la pensée, et avant la pensée, il y a des actes. Donc, je suis d'accord qu'il faut faire savoir les résistances qui se créent un petit peu partout. On ne le sait pas assez pour nous redonner espoir à la continuation de tous ces mouvements. Pendant la guerre, moi je suis né en 45, donc voilà, juste à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il faut le continuer tous ensemble, je crois.
Bonsoir. En fait, moi je suis vraiment contente de voir que ce film a été tourné. C'est très important dans le sens où, pour nous qui venons de très loin et qui avons choisi la France comme pays d'adoption, ou On a besoin de connaître ce qu'a été l'histoire de la France. Aujourd'hui, il y en a qui se disent que c'est une histoire ancienne, il n'y a pas besoin de répéter tout ça, c'est déjà passé. Moi, je pense que c'est très important de savoir d'où on vient pour savoir où on va finalement. Et c'est important aussi pour ceux qui choisissent la France, dans le sens où demain, je vais avoir des enfants qui seront français et qui auront besoin de connaître l'histoire. L'histoire de la France, c'est quelque chose qui a touché le monde. On n'a pas, ici, je sais qu'en France, peut-être, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que la France représente en la matière de droits de l'homme, en la matière d'exemplaires sur ces plans-là. Aujourd'hui, en Afrique, nous, on souffre un peu de la dictature. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de résistants. Et la résistance qu'on voit en France, qui continue, évidemment, est très importante pour nous autres qui venons des pays où il y a des dictateurs. Et il faut le dire aussi, la dictature qu'on a vécue en Afrique, qu'on continue à vivre en Afrique, n'a pas commencé en claquant les doigts. C'est une histoire qui vient petit à petit. C'est comme un bouton qui pousse. Et si on s'est dit demain, bon, on est là, on va se résigner à tout ce qui va venir, on accepte tout ce qu'on nous dit, la presse ne peut plus rien dire parce que on va aller vers la dictature. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très dur à vivre. La dictature, c'est la prison sans mur. On peut se dire, bon, je suis libre, j'ai ma vie, j'ai tout ce que je veux, mais le plus important, c'est la société, au fait. C'est vraiment la société. Et moi, je viens d'un pays où la société compte plus que tout. On est prêt à donner sa vie pour que 2, 3, 4 personnes puissent vivre après. Et ça, c'est une des valeurs une des valeurs humaines, et la France en est exemplaire à ce point-là. Donc je veux juste tout simplement dire que la France, tout Français aujourd'hui doit être fier qu'on puisse parler des résistants, des gens qui ont pu résister et dire non à des choses qui n'étaient pas toujours que eux n'ont pas accepté, et que peut-être la majorité avait accepté parce qu'ils n'osaient pas lever le doigt. Et je vous dis merci. Je vais vraiment remercier M. Walter, parce que c'est très important pour la suite, pour nous autres.
Ben, je crois que c'est nous qui vous remercions. Hein. Bon. Je crois, juste pour compléter, même si ça n'a pas la même portée que ce que vous avez dit, mais je crois que quand Stéphane Hessel dit que la résistance est garder sa capacité d'indignation, je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont dites à travers cette phrase, quoi.
Oui, justement, moi, je rebondis là-dessus parce que Walter, qui rencontre sans doute pas mal de lycéens tout aussi surprenants, enfin, par rapport aux propos, enfin, les propos dits dans le bus, il y a des moments, est-ce qu'il a pas envie de baisser les bras et qu'est-ce qui le porte, quoi? Parce que bon, il parlait d'indignation, est-ce qu'il y a des fois, parce que bon, moi, j'avoue que, en tant que militante, il y a des moments où je suis découragée, comme il dit, c'est quand même très positif parce qu'il dit qu'il y a, c'est une minorité finalement qui a fait pousser tout ça. Donc nous, en tant que militants, on n'est pas nombreux. Il y a des moments où on a vraiment envie de baisser les bras et des fois, j'aimerais bien avoir des éléments qui me portent pour essayer de continuer, quoi. Et si bon, je connais bien Alain, je sais sa détermination et c'est vrai que j'apprends tous les jours, enfin à chaque fois qu'on se rencontre. Mais est-ce que justement Walter a une autre vision? Alain est très déterminé, il a un objectif bien précis et bon, il l'a bien expliqué. Est-ce que Walter est porté par autre chose?
Walter, c'est le plus optimiste d'entre nous, de toute façon.
Je ne sais pas par quoi je suis porté. Seulement, je suis porté parce que je suis conscient d'être un citoyen et que là, nous vivons en République officiellement et que bon, si chacun de nous se conduit en citoyen, eh ben, on finira par rétablir cette valeur républicaine et ces institutions républicaines. C'est tout. Bon, mais ça, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Bon, vous savez, j'ai quand même... dans le groupe de résistance, nous étions 25. Sur les 25, nous avons tous été déportés après avoir subi les tortures par les miliciens français. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et sur les 25, 14 ne sont pas revenus. Alors, ne serait-ce que pour eux, je me dois de défendre leur mémoire. Et je me dois de me défendre les valeurs pour lesquelles ils s'étaient engagés. C'est tout. Et je continue. Et tant que ma tête fonctionnera normalement, même si c'est dur, même si des fois on a l'impression qu'on n'est pas suivi, on a l'impression que les gens s'en fichent, eh ben non, ça ne me fera pas arrêter pour autant. Je continuerai. Parce que je sais que de toute façon, bon, Alain est l'exemple qu'il ne faut pas perdre de confiance et il faut continuer à se battre et à essayer de faire que les hommes et les femmes de plus en plus nombreux se retrouveront pour défendre ces valeurs, disons, républicaines. Voilà.
Aviez parlé de la haine, enfin que quelqu'un avait ressenti le film comme étant porteur de haine. D'abord, merci pour ce film. Moi, j'ai plutôt senti quelque chose qui était au contraire un souci de ne pas entrer dans la haine. Enfin, ça me frappait lors de la visite au camp de Dachau. Et je voulais vous demander comment fait-on pour traverser l'existence sans cette haine, tout en continuant un combat, parce que c'en est un. Et en voyant, j'ai oublié votre nom, aux prises avec les menaces de M. Accoyer, je me disais, mais moi, je ne pourrais jamais militer, ça me met dans une colère. Alors, si vous avez des paroles et un semblant de recette, alors merci doublement, parce que...
Non, je crois. Il n'y a pas de recette, hein, sauf que... Donc, qu'en disiez-vous en citoyen, et à partir de là, vous aurez à réagir. Chaque fois que vous verrez une dérive, que vous constaterez une dérive, vous vous associerez à tous ceux qui se battent, à toutes ces minorités dans les partis, dans les syndicats, dans les associations, et qui se battent quand même, hein, même si apparemment ils ne laissent pas beaucoup de souvenirs de leur action. Mais c'est vrai qu'ici, à Toulouse comme ailleurs, il y a des gens qui se battent contre cette dérive que l'on constate depuis plusieurs années. Bon, il arrivera un jour où on aura peut-être un peu plus d'influence et puis qu'on sera mieux suivi. Mais ça, on le sera que si on continue. Parce que si on baisse les bras comme les autres, eh ben, je crois qu'on est fichu, quoi.
Moi, juste par rapport à ce que vous dites, par rapport à Bernard Accoyer, ça ne mérite même pas qu'on y ait des... Ah non, je crois pas qu'il faut surtout pas passer de l'énergie avec des gens comme ça. Il y a rien à récupérer là sur le. Donc non, c'est. Ouais, mais non, mais je vais vous dire à quel point. Et c'est vrai que je le dis même. C'est très rare que je le dise au cours des présentations, mais à quel point il est nul, quoi. En politique, en culture politique, je veux dire, c'est un brillant. Il est médecin ORL brillant. Enfin bon, voilà. Il est arrivé président de l'Assemblée nationale parce qu'il faisait de l'ombre à personne. Mais et c'est un brillant politicien dans la technique, enfin la politique politicienne, comme on a coutume de dire. Mais au niveau de sa culture politique, savoir sur quoi on s'est construit, comment ça se fait qu'on est là aujourd'hui, comment on est organisé, c'est la nuit. Si vous voulez, dans la chronologie, en fait, là, par rapport à ce que vous avez vu dans le film, quand je fais l'interview, après vous avez vu, il part, il veut pas. Bon, mais il s'est passé un petit temps où en fait il savait pas qui j'étais et il a posé la question aux autres, voilà. Puis après, c'est pour ça qu'il est arrivé furax et qu'il est dans. C'est pour ça qu'on comprend pas bien pourquoi il est aussi violent d'ailleurs. Parce qu'il était un peu malin, il aurait laissé filer les choses, il serait pas encore venu faire le teigneux là au milieu de tout le monde comme ça et les gens se demandaient ce qui se passait. Tout ça pour vous dire que pendant ce petit laps de temps, quand il est parti, il est revenu vers moi et puis il dit non, mais je m'attendais pas à ce que vous posiez ces questions quand même, ces questions de politique, j'étais pas préparé, enfin bon, c'est pas comme ça qu'on travaille, bon, tout ça, ce qui m'a répété après d'une façon beaucoup plus violente sur sa vision de la politique, après chacun juge pas. Et à un moment donné, il me dit puis de toute façon sur ces histoires-là, vous êtes des dogmatiques. Donc on peut pas avoir un regard politicien sur ces questions-là. Bon, alors donc voilà, moi j'étais dogmatique, lui il fait pas de politique comme tous ces gens-là. Donc. Et je lui dis bon d'accord, on n'est pas d'accord sur le fond sur la politique. Vous avez mis en place des politiques libérales. Vous pensez que mettre en avant l'économie finalement en essayant de déréguler, et puis ça va faire rendre nos entreprises plus compétitives et que tout le monde va finir par en tirer profit, y compris les salariés, etc. Pourquoi pas? Je veux dire, j'aime autant discuter avec quelqu'un qui a ce discours-là, au moins ça, bon. Je dis, moi, je pense pas ça. Moi, je pense que c'est par la loi et la règle qu'on va essayer de rétablir un petit peu d'équité. Et puis, plus on enlève les lois, plus le fort est fort, plus le faible est faible. Bon, peu importe. Je lui dis, mais moi, ce que j'aimerais, c'est juste que vous reconnaissiez une chose, c'est que votre système ne crée que de la disparité. En enlevant ces règles, voilà, vous faites le plus faible est faible et le plus fort est plus fort. Et je lui dis, regardez, votre exemple, vous êtes un nanti, vous avez votre villa ici à Annecy-le-Vieux, vous avez certainement une villa sur la côte, et puis dès qu'il y aura un bon coup à faire, vous serez le premier à pouvoir en bénéficier, et la spirale est sans arrêt montante. Et puis, moi je lui dis, moi j'ai racheté la maison de ma grand-mère moins cher que le prix du marché, donc je m'estime dans sorti de pas mal de problèmes que connaissent beaucoup de gens. Et je dis, à côté de chez vous, il y a des HLM pas très loin, et où des gens sont complètement dans la spirale inverse, c'est-à-dire qu'on peut pas valoriser son habitat, on est pris à la gorge à la fin de chaque mois, etc. Et voilà, la seule réponse politique qui fait à ça, il dit, ah ben, au moins, on va être d'accord, on a laissé venir trop d'étrangers. Donc voilà, le gars, il fait le malin en disant qu'il est quand même le quatrième personnage de l'État. Donc, vous voyez, un petit peu. Ça, si j'avais pu l'enregistrer, c'était. Mais là, la caméra tournait pas. Et je vous promets, je vous mens pas. C'est que voilà, je suis resté comme ça. Et je dis, alors là, vous êtes comme Monsieur Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme. On est étranger, donc on est pauvre, donc on va foutre la merde. Enfin, finalement, la vie est assez simple. Non, c'est pas.
Juste une question. À la fin du film, on voit un extrait de la lettre où il te donne l'injonction de ne pas utiliser ces images. Donc on aimerait avoir la suite. Voilà, c'est là. Oui.
J'ai désobéi, ouais. Oui, ben en fait, quand il m'envoie la lettre, c'était 10 jours après l'interview, et en fait, il pensait qu'il remet une couche de pression, d'intimidation pour ça. Et en fait, ouais, maintenant que le film est sorti, ben déjà, pendant le montage, enfin, c'est vrai que là, on peut faire le malin, parce que bon, il y a... Le public est quand même globalement acquis, mais sur le moment, c'était pas, on savait pas trop quoi faire. En plus, on est une toute petite structure, on fait ça à deux. Enfin bon, c'est pas. D'accord. Et en fait, rapidement, on s'est dit, bon, de toute façon, si on fait un film sur la résistance, puis que nous, à la première menace venue, on cède aux menaces, on serait peut-être pas, on va se faire vite mettre dans la figure. Donc, on s'est pas posé la question très longtemps. Mais en fait, sur la lettre, il l'a pas attaqué juridiquement, frontalement, parce qu'on avait fait pas mal de projections en Haute-Savoie très rapide pour qu'il y ait un maximum de gens qui voient le film et qu'après, ça a le mal pour attaquer. Et puis après, bon, c'est passé entre les mains d'avocats. Ils se sont bien rendu compte que ça ferait certainement plus de pubs. Et que valait mieux. Mais par contre, ils ont utilisé tous les moyens qui sont à leur disposition pour décrédibiliser le film. Quand Walter disait la haine, la guerre civile, et même il y avait 3 arguments qu'ils ont repris en boucle dans les salles. C'était la haine, la guerre civile, et que c'est à cause de films comme ça que des mouvements comme Action Directe sont nés au début des années 80. Donc faites bien. Et en fait, ils envoyaient des émissaires dans les salles. Les maires UMP de Haute-Savoie avaient été briefés, c'est-à-dire qu'ils ont fait pression sur les programmateurs de salles de cinéma qui, certes, il y a beaucoup de salles qui sont tributaires à la municipalité par des, donc en menaçant de virer les directeurs, ça s'est passé, des convocations dans les bureaux, donc ça marche, ça, très bien. Et puis, comme ils ont une presse qui globalement leur fait allégeance parce qu'ils ont tout pouvoir sur la Haute-Savoie, et ben, c'était les communiqués de presse qui passaient, et puis c'était, voilà, toute cette campagne de diffamation. Et cette diffamation, ce qui est intéressant, c'est que ça a toujours été par la bande, et jamais frontalement. C'est-à-dire que c'est par ces adjectifs qu'ils reprenaient en boucle, qui mine de rien, bon, en Haute-Savoie, il y a eu 6000 spectateurs, ce film, ce qui est beaucoup par le bouche à oreille pour un département comme la Haute-Savoie. Mais n'empêche que ça reste encore un paquet de monde qui a entendu ces saletés sur le film et qui sont pas venus le voir. Et pour ceux qui ont vu, évidemment que ça tient pas à ces arguments-là. Mais il y en a beaucoup qui l'ont pas vu, quoi. Donc ce travail, quand même, ça a fait son chemin, quoi. Ouais, déjà, c'est aussi rassurant qu'on puisse faire quand même des films comme ça en France. Même si on nous met des bâtons dans les roues, etc., ça reste quand même rassurant qu'on arrive à trouver des structures pour nous accueillir et qu'on arrive à, même si c'est fatigant, faut y croire, mais n'empêche que ça aussi c'est rassurant quand même. Après, c'est, comme je disais tout à l'heure, faut pas rêver. On est 100 à Toulouse ce soir et l'agglomération toulousaine, il y a plus que 100 habitants, hein, donc il y a encore un peu de boulot. Donc.
Mais c'est là qu'on commence votre travail à vous, c'est-à-dire que là, vous avez aimé le film, donc il faut que vous vous fassiez connaître. Et il faudrait aussi qu'on remercie le distributeur de films, parce que, mine de rien, distribuer un film comme ça, c'est apporter sa pierre à une démarche de résistance. Donc merci, Parasite Film. Et donc, parler du film... Amenez-nous des groupes scolaires, faites tout ce que vous pouvez pour arriver à le faire connaître.
Oui, donc, qui est-ce qui me pose la question là, sur la vie du film? Je ne sais plus, c'est vous. En fait, le film sort en sortie nationale le 4 novembre prochain, dans une vingtaine de salles en France, dont les Utopia. Ici, il sera à Toulouse au début, je crois, hein, au centre, oui. Et aussi ici, j'imagine, je ne sais pas. Enfin bon. Et parlez-en à vos amis dans les autres villes. Il y a un site internet du nom du film, walterretourenresistance.com, où il y a toutes les salles qui ont prévu de le programmer par la suite. Pour l'instant, après, ça évolue au jour le jour. Et puis, nous, on compte énormément sur le bouche à oreille et sur le, comme tu disais, sur les réseaux internet et les réseaux mail pour faire circuler les informations. Mais Walter n'a pas beaucoup bossé ce soir. Tu veux dire le mot de la fin, Walter? Il est à la retraite, il faut dire. Tant que ça tient.
Non, ce que je veux dire, non, on m'a posé la question si j'envisageais de baisser les bras, je dis non, je les baisse pas. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que en combattant le nazisme, j'ai combattu le racisme. Parce que, bon, Hitler avait, et sa bande avaient réussi à faire croire aux Allemands qu'ils étaient des êtres supérieurs et qu'ils devaient dominer le monde, pour ne pas dire d'abord l'Europe. Mon parcours a fait que j'étais confronté à ce racisme et j'en ai conclu, avec d'autres d'ailleurs, que le racisme est une fausse notion. Il n'y a qu'une seule race pour moi, c'est la race humaine. Et cette race humaine, elle mérite qu'on la respecte, elle mérite qu'on la défende. Et j'apporte ma pierre à ce combat. Voilà, depuis mon retour.